Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 1er. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée, y ait un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité. Estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Dans notre société, dans le monde, on admire ce que l'on appelle les self-made men, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui sont partis de rien du tout. Les hommes et les femmes qui n'avaient pratiquement pas un centime à poche et qui ont réussi à monter des entreprises et à faire fortune. On est admiratif de ces hommes qui ont construit de leurs propres mains des empires, qui ont construit de leurs propres mains des entreprises, qui ont construit de leurs propres mains des choses tout à fait incroyables. Ils sont partis de rien, ils sont partis d'en bas pour arriver à ce que aujourd'hui dans notre société on considère comme le sommet. On les admire, on les reconnaît. Mais dans ce texte, et notamment dans la deuxième partie, on s'aperçoit que dans la logique divine, celui qui est le plus grand, c'est Jésus, pour la simple et bonne raison, c'est que lui, il avait tout. Et il a accepté de se dépouiller afin de devenir rien. Et il n'en est pas resté à cet état-là, mais le texte nous dit que Dieu l'a élevé. Et qu'aujourd'hui, il n'y a aucun autre nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, les démons sortent. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, ceux qui ont peur retrouvent la confiance. Au nom de Jésus, croyons que rien n'est impossible. Il n'y a point d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Si dans notre société, pour être grand, il est nécessaire d'être au sommet, pour que dans l'éternité nous soyons au sommet, il est nécessaire aujourd'hui de passer finalement par le même chemin par lequel le maître est passé. L'esprit de Pâques, c'est un chemin d'abaissement. Mais c'est un chemin de relèvement. L'esprit de Pâques, c'est le récit du Fils de Dieu qui était Dieu et qui a accepté de se dépouiller de sa divinité afin de venir mourir sur la croix, d'être abaissé au rang de brigand pour ensuite ressusciter 3 jours après et être élevé pour l'éternité. C'est là l'esprit de Pâques. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'apôtre Paul dira que Christ est notre Pâques. Et cet esprit, il n'est pas lié à un week-end dans l'année. Mais cet esprit, c'est le fil conducteur de notre vie chrétienne. Certains me diront ce matin, mais comment faire pour se convertir? Peut-être tout simplement passer par ce chemin. Et c'est le chemin par lequel je suis passé. Lorsqu'à l'âge de 16 ans, tout d'un coup, j'ai réalisé, le Saint-Esprit m'a totalement abaissé. Tous mes rêves s'étaient effondrés, tout ce que j'avais essayé de construire de mes propres mains s'était effondré. Et là, j'ai connu cet abaissement, cette tristesse selon Dieu, comme l'apôtre Paul le dit, ces larmes qui ont coulé, ce constat que finalement ma vie avait été mise complètement par terre. J'ai été abaissé, j'ai accepté d'être abaissé, et j'ai accepté de m'abaisser à demander de l'aide à Dieu. Combien d'hommes et de femmes dans notre société ont besoin de Dieu et restent pourtant fiers, droits dans leurs bottes, et disent « je me débrouillerai tout seul ». On doit plier notre cœur et dire « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, je m'en sortirai jamais tout seul. Je m'en sortirai jamais toute seule. J'ai besoin de ta grâce. » Et à partir de ce moment, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on vit un chemin d'élévation. Parce que le Seigneur n'est pas celui qui nous dit « T'es nul, t'es un bon à rien, tu vas le rester. » Mais qui nous dit « Non, t'es une perle de grand prix, simplement il faut que je te travaille un petit peu. T'es un diamant brut, mais il faut que tu sors de ta bogue. Et puis il faut que tu te laisses façonner. » C'est ce chemin, l'esprit de Pâques. Ce texte nous montre plusieurs abaissements du Seigneur Jésus. Et on va voir que quelque part, il nous concerne également. Si nous voulons bien vivre un réel progrès, une réelle marche spirituelle efficace. Première chose que nous dit l'apôtre Paul aux Philippiens, c'est qu'il a renoncé à son égalité avec Dieu. Il était Dieu. Il était fils de Dieu. L'apôtre Paul écrit aux Romains que c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Jésus était Dieu. Jésus était à l'origine de toutes choses. À la création du monde, il était un artisan. Pourtant, il a accepté pour un temps de devenir un homme, comme vous, comme moi, un simple bipède, avec tout ce que cela peut représenter. Vous imaginez un notable de ce monde, toujours habitué à la fortune, qui, tout d'un coup, décide de tout laisser, de tout abandonner, pour aller vivre comme un simple homme, comme un ouvrier. C'est quelque chose de complètement inconcevable. D'impossible, on le considérerait comme un héros. Et c'est ce que Jésus a fait. Il était égal de Dieu, il n'a jamais utilisé ce rang sur cette terre. Mais simplement, il a cultivé sa relation avec son Dieu. Lorsqu'il ne l'a jamais utilisé pour lui, lorsque dans le désert, il est tenté et qu'il a faim, il a jeûné 40 jours, et c'est là que le diable vient. Petite parenthèse, après le jeûne, ne vous étonnez pas si les tentations sont là. Et là, il a faim. Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Non, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Mais par la suite, lorsqu'il va voir cette foule de 5000 hommes devant lui, il va multiplier les pains et les poissons. Sa relation avec Dieu, son rang de fils, parce que même si sur la terre il était dépouillé de ses attributs, il restait le fils. Cette relation avec Dieu, il ne l'a jamais utilisée pour nous, pour lui, mais il l'a toujours utilisée pour nous et pour les hommes. Il est venu avec une apparence quelconque. Il ne l'a jamais rien utilisé pour lui, parce qu'il avait déjà dans l'esprit de tout donner et de tout accorder. Ce qui est extraordinaire, c'est que s'il faisait du bien sur la terre, il continue à en faire aujourd'hui. C'est vrai, non? Multiplier les pains et les poissons, il a fait du bien à cette foule. Il a guéri des malades et il continue à le faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Aujourd'hui, il a retrouvé son rang, et je dirais même le rang le plus haut. Aujourd'hui, il est Dieu et nous l'adorons pour cela. Son abaissement suscite l'adoration, suscite notre adoration. C'est extraordinaire. Et pourquoi l'adorons-nous? Nous ne l'adorons pas simplement parce qu'il est Dieu, mais nous l'adorons parce qu'il nous a aimés et parce que nous l'aimons. Après l'abaissement, il y a l'élévation. Et je dirais que Jésus a encore reçu quelque chose de plus par rapport à l'état qui était le sien auparavant. Sous l'ancienne alliance, il était adoré comme Dieu. Aujourd'hui, nous l'adorons pour ce qu'il a fait pour nous. Il y a l'amour en plus qui vient couronner tout cela. Il n'a pas regardé Il en va de même pour nous. À partir du moment où nous acceptons, parfois de nous abaisser, d'oublier notre rang un petit peu, d'oublier ce que l'on est, et on le verra tout à l'heure. Alors, Dieu nous rétablit. Toujours un petit peu au-dessus. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée. Il ne s'est pas accroché à ses droits. Il n'a pas dit, mais c'est pas juste, mon père. Pourquoi est-ce que c'est tombé sur moi? Il n'a pas regardé comme une... Il n'a pas dit, mais c'est pas logique comme démarche. Il a dit, mais il n'a pas essayé de transiger, il n'a pas essayé de trouver. Non, me voici, envoie-moi. Il ne s'est pas accroché, il ne s'est pas cramponné. C'est le terme littéral. Mais il a accepté de lâcher. Peut-être que parmi nous, ce matin, un homme, une femme s'accroche à ses droits en disant « ce n'est pas juste ». Ce n'est pas juste ce que je suis en train de vivre et veut se lancer dans une vendetta, peut-être dans une forme de procès. Peut-être quelqu'un veut-il mettre son frère ou sa sœur en procès, frère ou sœur dans la chair, en disant « ce n'est pas juste, ce n'est pas logique, la loi est derrière moi ». Arrache-toi. Laisse. Ne te cramponne pas. Le Seigneur s'en occupe et il t'élèvera lorsqu'il l'aura jugé bon. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée. Sommes-nous capables également de laisser tomber nos droits? De laisser tomber ce que nous jugeons comme logique, comme acquis, au profit parfois de la paix ou au profit de l'amour. Savons que c'est lorsque nous bénissons nos ennemis que nous sommes appelés des fils de Dieu. Pourtant, les ennemis, on a le droit de, parfois, pas forcément être très tendre, on a le droit. Ah, on a le droit, logiquement parlant, la loi du talion même le permettait, hein. Œil pour œil, dent pour dent. Non. C'est lorsqu'on renonce à ce droit que nous devenons des fils de Dieu. Vous savez, si nous acceptons de perdre pour Jésus, et ça, ça ressemble à l'esprit de Pâques, Jésus a accepté de perdre pour Dieu. Il lui a été rendu au-dessus. Mon frère, ma sœur, si tu acceptes de perdre pour Jésus, de perdre au nom de Jésus, de perdre à cause de l'œuvre de Jésus, sache qu'il te sera toujours rendu. Dans les évangiles, il y a ce texte où Pierre va se tourner vers Jésus et il va lui dire « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Jésus répondit « Je vous le dis en vérité. » Et il nous le dit ce matin. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Il faut l'expliquer un petit peu ce texte, il faut le décortiquer pour qu'il soit intéressant. Plusieurs aspects sont soulignés sur mes notes. Nous avons tout quitté. C'est ce que dira Pierre. Hein. Et c'est vrai qu'il avait une entreprise de pêche. Il a laissé filer, etc. Et Jésus est allé le récupérer derrière tout ça. Et il a tout laissé. On a tout quitté. Cette promesse est réservée à ceux qui donnent tout de leur vie. Il ne s'agit pas d'argent, il ne s'agit pas de maison, mais il s'agit de son cœur. Il s'agit de son être tout entier. Si on s'engage à moitié avec le Seigneur, il nous donne trois quarts, parce qu'il est, moins mesquin que nous. Tout. Ok. Tu me bénis, ça marche. Je te bénis à mon tour. Il n'est personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception. Ça me fait du bien, ça. La bénédiction n'est pas que pour Jean-Luc. Ça vous fait du bien aussi, hein? La bénédiction n'est pas que pour Paul et Denise. Waouh ! Il n'y est personne. Cette promesse, elle est pour chacun et chacune. À cause de deux choses. Et qu'il le fasse à cause de deux choses. À cause de moi, c'est-à-dire dans le nom de Jésus. Et à cause de l'avancement de son œuvre. Mais souvent, on peut dire, Seigneur, j'ai tout quitté. Ça m'a arrangé un petit peu, quoi. Seigneur, je te donne tout, pas de problème. Je suis comme ça, voilà. Je suis pasteur maintenant. Wow. Dans ces cas-là, ça ne fonctionne pas. À cause de Jésus. Pour Jésus. Il n'est pas fait ici mention des épreuves de la vie. On le verra peut-être, non sûrement pas en conclusion, mais... C'est ma première partie, j'en ai quatre. On est mal. Présentement dans ce siècle, c'est-à-dire sur cette terre, et également dans l'éternité, et au centuple. Ce qu'on offre à Jésus nous le rend, à condition qu'on le fasse à son nom, en son nom, pour lui, pour son œuvre, pour l'avancement de son œuvre. Non pas pour nous, mais pour lui. Pour lui. Et personne n'en est exclu. Jésus n'a pas regardé comme une proie arrachée, mais au contraire, il s'est offert de tout son cœur. Il a oublié sa divinité en pensant à nous, par amour pour nous. Deuxièmement, il a pris la forme d'un serviteur. C'est ce que dit ce texte. Il a pris la forme d'un esclave. Il n'est pas simplement venu comme un homme, mais il est venu pour être serviteur de tous. Jésus est venu pour servir le Père, pas simplement en apparence, il n'avait pas simplement les vêtements, mais il avait le comportement qui était avec et il s'est fait serviteur de tous. De servi qu'il était, il est devenu serviteur. Et il va mettre le comble de son amour un petit peu avant la Pâque. Et le récit nous défait dans Jean 13 lorsqu'il va laver les pieds des siens. Et cet amour va être manifesté une bonne fois pour toutes sur la croix du calvaire. Jésus serviteur. Quelqu'un a écrit ce texte qui m'a beaucoup plu. Regardez-le, ce Jésus étonnant. Il aide Joseph à faire un joug dans ce petit établi de charpentier à Nazareth. N'est-ce pas lui, outre ce dépouillement volontaire, qui pourrait bien plus facilement dépouiller, créer un système solaire et une galaxie de systèmes ? Regardez-le encore, vêtu comme un serviteur, un linge et un bassin pour tout matériel. Il lave les pieds de quelques-uns de ses amis, qui sans leur esprit querelleur, auraient dû être en train de laver les siens. Il s'est humilié lui-même. Et je le prends pour moi ce qui va suivre. N'oubliez pas cela, crie Paul aux chrétiens de Philippe, quand vous serez tentés d'affirmer vos droits et satisfaire vos intérêts personnels, et ainsi de briser votre communion les uns avec les autres. Jésus avait tous les droits et avait toutes les possibilités. Mais au nom du Père, et au nom de l'œuvre qu'il avait accomplie, il s'est fait serviteur. Et je crois que nous ne devons jamais l'oublier que si sur la terre, c'est celui qui est à table qui est le plus grand, dira Jésus, dans le royaume des cieux, c'est celui qui sert, qui est le plus grand. Réformons notre manière de penser, réformons notre manière d'analyser les choses. Et dis-toi bien, mon frère, ma sœur, que lorsque tu es au service, dans le ciel, tu as une position élevée. Lorsque, quelque part, eh bien, tu te sens un petit peu amoindri, parce que la logique du monde voudrait qu'on soit au-dessus, le plus grand dans le ciel. C'est le plus petit sur cette terre. Les données sont inversées. Jésus va servir et va même laver les pieds de certains qui vont l'abandonner. Quelle image extraordinaire. Mais il va être élevé. Ce serviteur aujourd'hui, eh bien, il est sur son trône et il s'est acquis un peuple nombreux qui le sert. Et ce peuple, c'est nous. Mais nous ne le servons pas comme des esclaves, mais nous le servons comme des amis. Jean 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. La relation n'est pas celle d'un esclave à son maître. Mais Jésus s'est acquis des amis. Et il dira même qu'il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Il a accepté d'être serviteur de tous. Aujourd'hui, il y a une multitude, eh bien, qui le sert, une multitude qui l'adore. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, troisième point. Et là, je passe très rapidement, je vous donne l'idée maîtresse. Apocalypse 2:17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée, un caillou blanc, etc. Tout ce que Jésus attend de nous. Jésus lui-même s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il a été fidèle dans les petites choses puisqu'il a tout accompli. Et alors il a été élevé. Mon frère, ma sœur. Comme je le disais, je ne sais plus quand, l'extraordinaire est pour Jésus. Le naturel est pour nous. L'extraordinaire est pour notre Dieu. Nous, tout ce que nous avons à faire, c'est être fidèles dans nos journées. C'est être fidèles. Et celui qui est vainqueur, ce n'est pas celui qui aura vu des dizaines et des dizaines d'aveugles ouvrir les yeux ou des sourds entendre par centaines. Celui qui est fidèle, ce n'est pas forcément celui qui fera de grandes choses au nom du Seigneur Jésus. Celui, le vainqueur dont il est parlé, qui recevra cette manne cachée, ce caillou blanc, c'est-à-dire l'approbation de Jésus sur sa vie, c'est tout simplement celui qui aura été fidèle, qui dans le silence, qui dans le calme, aura pratiqué sa foi, aura exercé sa foi, aura fait du bien quand l'opportunité lui en aura été donnée, qui aura tenu bon dans le combat, qui aura été fidèle à la parole de Dieu, qui aura donné sa vie, qui aura livré sa vie entre les mains du Saint-Esprit. C'est lui qui sera élevé. C'est pas celui qui aura été clinquant, qui aura fait forcément de belles louanges. On peut être fidèle tout en faisant de belles louanges. Ne schématisons pas. Celui qui aura tout simplement vécu sa foi. C'est lui qui sera vainqueur. Sur la croix, est-ce qu'on pensait que Jésus était vainqueur ? Non. On se moquait de lui. Le diable devait rire. Pourtant, Jésus était fidèle. Jésus était fidèle. Et il accomplissait tout, avec minutie, avec soin. Sois fidèle. C'est tout ce que le Seigneur te demande. Marche. Marche selon ce qu'il met sur ton cœur. Selon les rêves qu'il a sur ton cœur. Cherche pas les grands exploits, c'est pas toi qui le feras, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Sois fidèle. Vis ta foi dans ton quotidien, tranquillement, avec joie. Tisse une relation avec Jésus. Sois fidèle. Et alors, tu seras vainqueur. Tout comme Jésus a été vainqueur en étant fidèle au Père. En conclusion, l'abaissement de Jésus, on le voit, c'est un abaissement volontaire. Personne ne l'a forcé. Ce n'est pas les épreuves de la vie non plus qui lui ont enlevé sa divinité. Non. Ce n'est pas les épreuves de la vie qui l'ont balayé. Mais il s'est abaissé volontairement. Et pour vivre cette élévation, mon frère, ma sœur, je dirais que c'est différent d'un brisement. Le brisement vient. Vous savez, on t'entend dire, Seigneur, tu m'as brisé. Ben oui, les circonstances de la vie ont été utilisées afin de briser notre tête dure. Mais avant le brisement, il y a quoi ? Il y a cet abaissement volontaire. Et si nous voulons éviter le brisement, passons par cet abaissement volontaire. Fléchissons le genou. Fléchissons le genou. Nous savons ce qu'il est nécessaire de faire. Mais bien souvent, le problème vient du fait que nous ne le faisons pas. Et on a toujours de bonnes raisons. Et on a raison d'avoir de bonnes raisons. On les connaît tous, hein. Si vous n'en trouvez pas, je peux vous en donner. Jésus s'est abaissé volontairement. Il a accepté de perdre volontairement. Et je réfléchissais ce matin dans mon bureau. Et j'ai été humilié profondément lorsque j'ai compté le nombre de fois où j'avais accepté dans ma vie, où j'avais accepté de m'abaisser volontairement. Pour Dieu, pour son avancement de son œuvre, ou pour moi. Et je suis certain, parce que je ne dois pas être une exception, je souhaite que votre niveau soit meilleur que le mien. Je le souhaite de tout mon cœur. Combien de fois avons-nous obligé Dieu à aller chercher notre abaissement ? Combien de fois l'avons-nous obligé à nous mettre, à susciter des circonstances, afin qu'on prenne le mur, vous savez, pour bien comprendre, alors que sa parole nous suffisait, alors qu'on avait la direction. Quelqu'un, ce matin, est en colère après Dieu. Est en colère après Dieu, à cause de ce qu'il vit. C'est une colère profonde. Ne le prenez pas mal ce que je vais vous dire. Le Seigneur lui répond, si tu m'avais écouté, si tu t'étais abaissé, alors tu ne serais pas en train de souffrir. Mais il lui répond également que si là maintenant il accepte de s'abaisser, alors la restauration viendra. La restauration viendra. Mes frères, mes sœurs, c'est vraiment un cri du cœur que je pousse ce matin. N'attendons pas que le Seigneur nous brise. Abaissons-nous. Abaissons-nous. Que le Seigneur nous accompagne, nous fasse du bien. Et que l'esprit de Pâques, finalement, renoncer à nos droits, qu'est-ce que c'est ? Renoncer peut-être à notre honneur parfois, qui ressemble plus à de l'amour propre, voire même à de l'orgueil, mais ça c'est pour les autres églises, c'est pas pour nous. Il n'y en a pas ici. Accepter de se donner volontairement. Accepter de renoncer à notre position sociale ou à notre position spirituelle. Ça fait 40 ans que je connais Jésus. J'ai rien à apprendre. Un jour, quelqu'un me l'a dit, ça. Une brave grand-mère. Je commençais juste dans le ministère, elle m'a dit, « Pouh, vous n'avez rien à m'apprendre. » Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris ma Bible et je suis parti. Elle m'a couru après. Parfois, on réagit comme ça avec Jésus. On vient à la réunion en disant, « Pouh, j'ai rien à recevoir, de toute façon, je connais tout. Ça fait 40 ans que j'attends l'Évangile. » Que le Seigneur nous aide. Amen.